Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse qui vous propose trois thèmes à savoir marche hier à Kinshasa, à Mbujimayi, à Goma et à Lubumbashi, des militants de l'UDPS. Ces partis exigent à la CENI la transparence du processus électoral. Ensuite, l'intersyndicale des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et le gouvernement congolais se sont accordés hier à Kinshasa pour maintenir la rentrée scolaire au lundi 5 septembre. Enfin, sport en République démocratique du Congo, Robert Nouzaré a mis fin à sa fonction de sélectionneur national de Léopard Football depuis mardi dernier. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien, bonsoir Timothée.
Alain Botoko, il est reporter photographe indépendant. Bonsoir Alain Botoko.
Bonsoir Guy et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Dieudonné Moulamba, il est journaliste de la radio-télévision Malanji FM de Kananga au Kasaï occidental. Il est aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. Bonsoir Dieudonné Moulamba.
Bonsoir Guy et bonsoir à tous les amis auditeurs de Radio Okapi.
Marche de l'UDPS, rentrée scolaire et départ de Robert Nouzaré. On écoute cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Commençons cette revue de la presse avec l'avenir qui parle de la marche de protestation de l'UDPS jusqu'au siège de la CENI. Selon ce journal, l'objectif de cette marche était de dénoncer l'opacité délibérément entretenue par la CENI et son bureau autour des différentes opérations importantes du processus électoral en cours. Ce journal estime que visiblement, l'UDPS a engagé un véritable bras de fer avec la CENI et à ce jour, le bout du tunnel est encore loin. Pour le potentiel, sans surprise, cette marche de l'UDPS a été réprimée par les forces de l'ordre à coups de feu et de gaz lacrymogènes. Ce qui n'est qu'une partie remise soutient l'UDPS qui annonce une nouvelle marche le 8 novembre prochain. La tempête tropicale, pour sa part, estime que cette marche de l'UDPS a été perturbée par des pombas, une trouvaille qui risque, selon ce journal, de créer des tensions au-delà du terrain politique. L'observateur de son côté, parlant de la tension qui s'est vécue hier à Kinshasa, estime que la marche de l'UDPS a fait des blessés et des dégâts matériels importants. Sur un autre registre, le palmarès affirme qu'à 4 jours de la rentrée scolaire, les parents se plaignent du coût élevé des frais scolaires et des frais de confirmation d'inscription. À tout cela, s'ajoute aussi le nombre élevé de cahiers exigés par certaines écoles aux enfants. L'observateur de son côté voit un blocage persistant entre le gouvernement et les différents syndicats des enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire. Selon le confrère, les deux parties ne se mettent pas d'accord sur l'augmentation des salaires revendiqués par les enseignants. Terminons cette revue de la presse avec le potentiel qui annonce le départ de Robert Nouzaré à la tête des Léopards de la RDC. Parmi les raisons évoquées figure entre autres son mécontentement au sujet des interférences de la FECOFA dans la sélection des joueurs. Pour Forum des As, le départ de Robert Nouzaré laisse la place à Claude Leroy qui revient aux commandes des Léopards de la RDC.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse. Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette marche des magistrats mardi dernier pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles.
C'est donc le front social, n'est-ce pas, qui commence à bouillir. On a parlé de la rentrée scolaire avec toutes les difficultés que les parents sont en train d'endurer, n'est-ce pas, avant cette rentrée. Il y en a même qui ont parlé de reporter la rentrée parce que ça ne va pas. Mais l'intersyndicale, comme tous les ans, malheureusement, n'est-ce pas, s'est retrouvée avec le ministre et à la veille de la rentrée scolaire, on essaie de colmater les brèches sans trouver les vraies solutions. C'est quand même assez dommage.
Alain Botoko, vous êtes reporter photographe indépendant. La presse a aussi évoqué les tractations au sein de l'opposition pour une candidature commune.
Oui, merci. Avant que je réponde à cette petite préoccupation, je voudrais d'abord dire que j'étais hier moi-même au boulevard et je devais couvrir la manifestation de l'UDPS qui est légale parce que la Constitution reconnaît à l'opposition cette légalité. Et j'ai été buté à des gaz lacrymogènes, à des coups de feu et j'ai même du mal à faire sortir mon appareil pour faire mon travail. Et je déplore ça. Et
voilà, on va y revenir. Merci Dieudonné Moulamba, vous êtes journaliste de la radio-télévision Malanji FM de Kananga au Kasai-Occidental et vous êtes aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. Quelle est l'actualité à la une dans cette province du Kasai-Occidental et plus particulièrement à Kananga?
L'actualité au Kasai-Occidental dit l'adoption il y a quelques heures du budget de la province du Kasai-Occidental à l'Assemblée provinciale de cette province. Le budget présenté par le gouverneur de province, Hubert Kabasubabou, a été déclaré recevable à l'Assemblée provinciale. Les députés ont dû émettre leur point de vue depuis deux jours. Et aujourd'hui, c'était le rendez-vous pour le gouverneur de province de réagir à ces différents points de vue, à ces différentes questions posées par les députés provinciaux. Il y a eu effectivement des ajustements qui ont été faits sur ces budgets. Et je pense que ça a été une bonne chose pour le gouverneur de province et la commission économico-financière de l'Assemblée provinciale pour qu'on puisse essayer d'approfondir ce budget, étant donné qu'il y a beaucoup de besoins qui se font sentir au Kasai-Occidental.
Et il est estimé à combien ces budgets, les montants de ces budgets?
Plus de 100 milliards de francs congolais, donc c'est ça en tout cas le montant auquel il est estimé.
Merci. Notre premier thème de ce soir, marche hier à Kinshasa, à Mbujimayi, à Goma et à Lubumbashi, des militants de l'UDPS. Ces partis exigent à la CENI la transparence du processus électoral. Parti de la deuxième rue limitée dans le calme, la situation a dégénéré au niveau de l'hôtel des villes. La police a dispersé les manifestants. Des jets de pierre, des tirs en l'air et des gaz lacrymogènes ont suivi. Quelques véhicules ont été brûlés et plusieurs personnes blessées et interpellées. Michel Kifindangoï pour les reportages.
10h30, début de la manifestation au secrétariat général de l'UDPS à la 10e rue Limité. Plus d'une centaine de militants ont pris d'assaut le boulevard Lumumba en direction du siège de la CENI à Gombe. Plus ils avançaient, le nombre devenait croissant. Banderoles et drapeaux des différents partis politiques proches à Étienne Tshisekedi à la main, les manifestants ont observé le calme jusqu'au niveau du marché central. La situation a dégénéré lorsque la police a tenté d'empêcher les manifestants de passer par l'hôtel des villes. Déviant vers l'avenue du commerce, les manifestants ont essayé sans succès d'accéder sur le boulevard du 30 juin. La police a tiré en l'air et lancé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Ils vont alors riposter par des jets de pierre. Pendant ce temps, les cadres de l'UDPS tentaient d'appeler leurs militants au calme. Quelques véhicules ont été brûlés ou endommagés. On note également des blessés. La police a procédé par la suite à des interpellations et arrestations, parmi lesquelles on signale deux journalistes d'une chaîne de télévision de Kinshasa. Ces derniers ont été libérés quelques heures plus tard.
L'UDPS exige notamment la liste des électeurs retenus et la cartographie des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Benoît Cambéré, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation et surtout des exigences de l'UDPS?
C'est des exigences tout à fait légitimes, n'est-ce pas, qui ne devraient pas amener à ce qu'on ait des blessés. Il semble qu'il y aurait même eu des morts à Mbujimayi. Quand on demande à la CENI de donner la liste des électeurs, quel mal il y a à ça et pourquoi la CENI ne peut pas produire cette liste? Qu'est-ce qu'elle a à cacher? On demande les adresses des bureaux de vote. Si on n'a rien à se reprocher, c'est des choses qui sont dans le domaine du possible. Pourquoi il doit y avoir une marche pour qu'après on annonce, non, dans une semaine, il y aura une concertation, on va donner. Mais c'est tout ça qui pose problème. L'UDPS a écrit à la CENI, a donné 10 griefs pour lesquels on attend des réponses. Pourquoi il doit y avoir chaque fois des pressions pour qu'il y ait des réponses? C'est la question qu'on se pose. Si la CENI n'a rien à se reprocher, elle devrait vraiment être transparente. C'est des choses, on ne demande pas la lune. Vous avez 50 bureaux de vote. Est-ce que vous pouvez nous donner les adresses de ce bureau de vote? Parce que nous avons appris qu'il y a des bureaux fictifs. Si vous n'en avez pas, quel est le problème? Il suffit de les montrer, de donner les adresses, un point barre. Qu'est-ce qui fait que ça pose problème chaque fois qu'on veut voir un peu plus clair? Et je remarque que du côté de la mouvance présidentielle, personne ne fait aucune exigence. C'est dans le meilleur du monde, le travail que la CENI est en train de faire est bon, et même de la communauté internationale. J'ai suivi un communiqué de la MONUSCO, n'est-ce pas, qui félicitait le travail de la CENI après les enregistrements des électeurs. Alors que tout le monde a appris, il y a beaucoup d'ONG qui en ont parlé, Human Rights Watch, APRODEC, La Voix des Sans-Voix, pour ne prendre que cela, on a remarqué beaucoup de doublons, il y avait des militaires qui se sont fait enrôler, il y a des policiers qui se sont fait enrôler, il y a des enfants qui se sont fait enrôler.
Et les efforts que la CENI a fournis pour arriver à faire enrôler 32 millions, environ 32 millions de personnes, ces efforts-là ne peuvent pas être salués?
Mais bien sûr, si vous avez fait un effort et qu'il y a des failles quelque part, parce que vous avez fait un effort, les gens doivent se taire? Ah non, ce n'est pas ça.
Alain Botoko, les revendications de l'UDPS sont légitimes. Vous, vous étiez sur place lorsque cette marche a été organisée. Pourquoi, à votre avis, cette marche ne s'est pas terminée pacifiquement comme elle avait commencé?
Oui, mais il faut dire que les militants de l'UDPS ont commencé par l'UMETE, 12e rue, et ils sont venus jusqu'au Grand Marché. Et quand ils voulaient traverser le Grand Marché pour la ville, le militaire et les policiers ont commencé à le menacer. Et arrivé au boulevard, c'était le chaos. Et cette image, je n'ai vu qu'à l'époque.
Il n'y avait pas eu de provocation de la part des militants, des manifestants?
Il faut dire que tout au long de leur marche, ils n'ont rien provoqué. Moi, je n'ai pas vu la provocation. Par contre, je vis un grand dispositif de policiers tout au long du boulevard. Et ça, c'est jamais vu. Je n'ai vu ça qu'à l'époque de Mobutu. Il y a 20 ans passé.
Voilà, mais qu'est-ce qui a provoqué ces heurts entre la police et les manifestants?
Il faut dire que ce que l'UDPS est en train de demander est logique et aussi légal, selon la constitution congolaise. La constitution, dans son article 5, dit que les citoyens congolais ont le droit de contrôler ce qui se passe dans l'organisation des élections, des référendums, et de tout ce qui peut faire la légitimité d'un pouvoir. Et ça, on ne peut pas confisquer ça à la population. La population ne réclame que ça. Et ça, c'est très simple. Regardez, l'UDPS est en train de faire le travail que devait faire la société civile au Congo.
Nous rappelons que la SADO, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, a exigé l'audit du fichier électoral récemment.
Mais oui, mais c'est la chose la plus simple. Vous voulez que j'aille aux élections? C'est la question que l'UDPS se pose. Vous voulez que j'aille aux élections sans que je sache qu'est-ce qu'ils vont me voter? Combien ils sont au juste? Est-ce qu'il n'y a pas d'effectif?
Dieudonné Moulamba, à part Kinshasa, l'UDPS a aussi organisé des marches à Goma, à Mbujimayi et à Lubumbashi. Mais dans cette dernière ville, donc Lubumbashi, les choses se sont passées sans beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce qui a été fait à Lubumbashi et qui n'a pas été fait ici à Kinshasa?
Moi, je pense qu'il s'est seulement agi d'un problème de tolérance et d'un certain niveau de démocratie que doit atteindre la province ou le pays, notre République démocratique du Congo. Parce que si au Katanga, les choses se sont passées normalement et qu'à Kinshasa, les choses n'ont pas su se dérouler comme il fallait, bon, moi, je me dis qu'au Katanga, les gens ont compris que quand on a la liberté de pouvoir manifester, quand ils se rendent compte que ça ne va pas. Et étant donné que les amis sur place en studio l'ont même signalé que toutes les revendications de l'UDPS sont fondées, moi je me dis qu'il fallait qu'on laisse, parce que cette réclamation devait être même celle de tous les partis politiques de notre pays. Ils devaient tous se mettre à réclamer ça, parce qu'il ne faut pas que l'organisation des élections soit un secret pour la CENI. Et je vois mal que la CENI soit en train de s'entêter dans cette histoire devant toutes ces revendications de l'UDPS, alors que tout est fondé et visible. Au moins que dans la façon dont l'UDPS est en train de réclamer ces histoires puisse être précoce. S'ils sont en train de réclamer de manière précoce, ok, là nous pouvons dire oui à ce que la CENI est en train de faire. Mais si il n'y a pas une certaine contradiction par rapport à la loi, mais la CENI doit laisser les choses se passer au vu et su de tout le monde pour qu'on ne puisse pas reprocher des manques de crédibilité, de transparence, le processus électoral.
Benoît Kambéré, en réaction à toutes les revendications de l'IDPS, le vice-président de la CENI, le professeur Jacques Dioly, rassure que l'opposition aura bel et bien accès au fichier électoral. Et à cet effet, une réunion est convoquée le 8 septembre pour débattre de cette question.
Est-ce qu'il fallait que l'UDPS entre dans la rue pour qu'on donne cette réponse? C'est là que je ne comprends rien à rien. Heureusement d'ailleurs que le professeur Dioly, lui, n'a pas été arrogant. Il l'a dit de façon polie et avec la courtoisie la plus élémentaire. Mais est-ce que pour donner cette réponse, il faille que les gens aillent dans la rue? Ça c'est un. Il faille qu'on réprime les gens pour ça? La réponse a été donnée parce que les gens ont fait une manifestation. Et là, je dois tirer une chandelle et tirer un coup de chapeau aux autorités de la ville de Lubumbashi, n'est-ce pas? Qui, eux, ont compris et ils appliquent la loi. Et quand les gens manifestent, ça se termine sans casse. C'est tout à l'honneur des autorités du Katanga. Ce n'est pas le cas à Goma où le maire de la ville a envoyé les policiers pour disperser une marche pacifique des gens conduits par le fédéral de Goma, n'est-ce pas, Rubens Mikindo, qui se rendait calmement au bureau de la CI, remettre le mémo comme ça s'est fait à Lubumbashi, ici à Kinshasa. Pourquoi on a arrêté les gens au niveau de l'hôtel de ville? Alors que les gens sont venus de l'imiter calmement. Et certes, la foule grandissait, il suffisait qu'on leur laisse, et le mémo a été remis.
Le commandant de la police province de Kinshasa, le général Oleko, dit que si la police est intervenue, c'était pour éviter le pire.
Éviter quel pire? Parce que moi aussi, j'étais à la poste. Ce sont les policiers qui ont commencé à jeter des pierres aux gens, à barrer la route aux gens. C'est ce qui a fait que ça a dégénéré. Pourquoi à Lubumbashi, ça n'a pas dégénéré? Pourquoi ailleurs ça dégénère? J'apprends qu'en Mbujimayi, on a tiré sur les gens. Nous avons quel genre d'autorité qui ne connaissent pas la loi fondamentale qui est la constitution qui dit que les gens peuvent manifester sans aucun problème? À Goma, le maire de la ville a évoqué le fait qu'on ne lui a pas demandé la permission. On est dans quel pays là?
Alain Boutoko, à votre avis, est-ce qu'il ne se pose pas un problème des perceptions de ce genre de manifestations de la part et des manifestants et de la police? Est-ce que les deux ont la même perception sur une manifestation pacifique?
Oui, mais regardez, tout le problème c'est quoi? C'est que la discipline n'y est pas dans notre police. La police n'est pas disciplinée. Vous pensez que ceux qui sont venus pacifiquement de l'UMT jusqu'au grand, dépasser les grands marchés, et c'est combien de kilomètres? C'est 10 kilomètres si je ne me trompe pas, à peu près 10 kilomètres. Ils n'ont rien cassé. Et il fallait
500 mètres du bureau de la CENI. Vous commencez à tirer, vous commencez à entrer dedans.
Allez,
oui, il fallait les laisser partir. Pourquoi les empêcher? Regardez, il y a une phrase qu'une autorité de la police a prononcée, a dit, non parce qu'on veut protéger le siège de la CENI. Est-ce que le siège est plus que les vies humaines, ce peuple-là qui a marché pour réclamer justement la clarté dans le processus électoral qui n'est pas un cadeau qu'on donne au peuple congolais?
Dédoné Moulamba, pourquoi à votre avis la CENI a pris beaucoup de temps pour donner la réponse à toutes ces revendications de l'opposition?
Bon, c'est ça même qui fait qu'il y a risque qu'on puisse commencer à parler en mal de la CENI, parce que tout ça c'est prévu par la loi. Et la CENI est un organe qui doit normalement interpréter la loi de manière la plus ponctuelle qui soit. Et si jusqu'à présent, ou ici, il faut du temps pour que la CENI puisse trouver solution à ces problèmes, moi je me dis qu'il y a quelque chose qui se trame autour du processus électoral qu'on ne sait pas encore comprendre. Mais pour éviter qu'on ne puisse pas prêter ces intentions-là à la CENI, il faut que l'organe puisse penser à mettre chaque chose à son temps, qu'on puisse savoir que les choses sont faciles, on ne doit pas les rendre difficiles, qu'on sache que la population congolaise a déjà pris du temps à apprendre quelques notions de démocratie, et les petites notions que nous avons dans le pays, on doit les respecter. Au lieu de penser que la population jusqu'à présent demeure encore naïve, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas réclamer ce qu'il faut réclamer. Non, parce que là, ça va maintenant biaiser au départ le processus électoral qui va être accusé de manque de crédibilité et autre chose que je disais avant. Donc moi, je pense que la CENI n'a pas raison de pouvoir retarder les choses ou donner solution à des problèmes terre à terre, mais avec beaucoup de temps de retard. Non.
Benoît Kambéré, maintenant que la loi sur la répartition des sièges a été promulguée, qu'est-ce qui pourrait se passer au cas où on accédait à ces fichiers électoraux et que l'on remarque des irrégularités?
D'abord, il faut qu'on y accède. Si les gens demandent l'audit, c'est tout simplement pour voir clair. Mais s'il n'y a rien à cacher, pourquoi on doit tergiverser? Pourquoi on doit faire que le sang coule? Parce que s'il ne se reproche de rien, ça ne devait pas poser de problème. Mais si on remarque qu'il y a des irrégularités, il faudrait les corriger.
Et les scénarios possibles là, c'est ça le... n'aurait pas des répercussions absolument. Sur la répartition des sièges?
Absolument. Et là, on va s'en prendre à qui? C'est la faute des électeurs? C'est la faute de la population? C'est la faute des partis politiques? Enfin, du moins, les partis politiques y comprennent, parce que apparemment, il y en a d'autres. Pour eux, non, tout se passe très bien, comme dans le meilleur des mondes. Tout va bien, Madame la Marquise. Au Parlement, on n'a pas pu contrer les irrégularités. Le deuxième tour qui est parti comme ça, comme une lettre à la poste, il semble qu'il y a des opposants là-bas. Ils n'ont même pas pu arrêter cette dérive. C'est passé. Maintenant, on est en train d'aller aux élections. On se bat pour des postes, mais on laisse que des irrégularités se passent. Si on remarque qu'il y a des irrégularités, il faudrait arrêter. Et ceux qui sont à la base de ça ne s'en prendront qu'à eux-mêmes.
Alain Botoko, s'il y a des irrégularités, il faudrait arrêter comme le propose Benoît Kamere. Et les scénarios possibles, à votre avis, c'est quoi?
Mais regardez, hier, j'ai suivi le professeur Njuli, qui est le vice-président de la CENI, dire que les kits électoraux ne sont à peine en train d'être commandé. Et il a dit que les cartes de vote ne sont même pas encore imprimées. On ne sait même pas combien de candidats députés.
Oui, les bulletins de vote, logiquement, ne pourraient être commandés que lorsqu'on aura la liste définitive des candidats.
Mais cela a de l'implication dans le processus. C'est pour dire que les élections, je parie que ça doit être difficile pour que les élections soient organisées le 28 novembre. Et maintenant, là, parce que les élections ne seront pas organisées dans cette date-là, qui est butoir selon la CENI, je me dis, est-ce que ça ne soit pas poussé que le politicien négocie? Et s'il faut négocier, on ne négocie pas avec quelqu'un qu'on tape au-dessus de sa tête.
Didone Moulamba, avec tous ces problèmes qui se posent actuellement, pensez-vous que logiquement, la date du 28 novembre pourrait être respectée? On pourrait organiser les élections le 28 novembre 2011?
Vous savez, dans ce pays, nous sommes habitués à des situations pareilles. Donc, il est fort probable que cette date soit respectée, selon moi, parce que si, à partir du moment où il n'y a pas encore eu de choses compliquées, il n'y a pas encore eu une forte pression politique dans le pays, sur la CENI, bien sûr, les choses commencent à se bloquer maintenant. Donc, si ce rythme évolue, moi, je pense qu'il va être difficile qu'on puisse respecter cette date électorale-là, parce que la CENI semble être en train de prendre quelque chose autour d'elle-même. Mais si tel n'est pas le cas, moi je pense que la CENI tiendra en toute responsabilité à cette date-là pour éviter que ce ne soit seulement la République démocratique du Congo où les reports ne font mal à personne, où le procès électoral est émaillé de beaucoup de problèmes d'irrégularité, de beaucoup de problèmes de craintes. Ça ne sera pas responsable pour notre pays.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, l'intersyndicat des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et le gouvernement congolais se sont accordés hier à Kinshasa pour maintenir la rentrée scolaire au lundi 5 septembre. Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour une rentrée scolaire apaisée. Au terme de ce pacte, le gouvernement a accordé à tous les enseignants du secteur public de la République une prime spécifique de 6 milliards de francs congolais pour une période de 3 mois. Les points avec Askin Zigbia Tayoro.
Cette prime spécifique est accordée aux enseignants après 2 semaines de négociations avec le gouvernement. Elle sera payée aux enseignants debout répartis en 3 catégories, notamment le cadre de commandement qui sont les directeurs et préfets d'études, les enseignants licenciés et diplômés d'État, enfin le D4 et les huissiers. Certains syndicalistes estiment que cette prime spécifique est insuffisante pour couvrir les besoins de plus de 3000 enseignants de l'EPSP. Par ailleurs, pour bon nombre des délégués des enseignants, cette prime obtenue du gouvernement n'est qu'un premier résultat de la lutte de l'intersyndicat et doit être prise en compte, car ce geste va faciliter cette année une rentrée scolaire apaisée. Henri Moukouba, vice-président du SINECAT.
Tous les 18 syndicats sont retrouvés ici et ils ont signé ce protocole d'accord. Donc nous supposons et nous croyons et nous pensons et nous sommes sûrs que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce lundi 5 septembre à 7h30. Pour ceux qui vont l'avant-midi et à 12h30 pour ceux qui travaillent dans l'après-midi.
Dans cet accord, cette prime spécifique devra être revue à 8 milliards de francs congolais dans les prévisions budgétaires de 2012.
Déjà, les parents sont débordés d'exigences à satisfaire, comme par exemple des frais scolaires à payer, des nouveaux uniformes et des chaussures à acheter. Et depuis un temps, les parents doivent faire face à une nouvelle donne dictée par certaines écoles, surtout privées. Ces écoles exigent jusqu'à 50 cahiers par enfant pour être admis au cours. Alain Botoko, la rentrée scolaire, comme toujours, un casse-tête pour les parents.
Mais les Français disent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les parents ne tombent pas du ciel, les parents congolais ne sont pas payés. Ou s'ils sont payés, ils sont moins payés. Et le Congo est rempli d'hommes et de femmes appelés chômeurs. Regardez, dans nos villes, dans nos villages, combien d'hommes, combien de femmes travaillent? Et combien sont dans le chômage? Et combien d'enfants qu'il faut faire étudier pour chaque famille? Les problèmes sont réels. Et aussi, tout le problème ici au Congo, c'est qu'on cherche à résoudre les choses d'une façon urgente, d'une façon précipitée. On ne prend pas la chose au sérieux, faire asseoir le problème et traiter les causes pour pouvoir donner des solutions durables. Résoudre les urgences, le gouvernement ne devait pas faire ça en réalité. Les urgences, ce sont les privés qui devaient le faire et le gouvernement devait résoudre les choses d'une façon claire, réfléchie et durable.
Mais donc, à Méré, les parents font face à des exigences, des frais scolaires à payer, des objets classiques, des uniformes, et tout cela serait lié aux conditions sociales des parents.
Absolument. Et l'État voit, l'État ne fait rien. La situation est hyper difficile. Nous, journalistes, on est aussi parents, n'est-ce pas? Ouais. On a des enfants qui vont à l'école. La situation est hyper difficile. Quelle est la solution que le gouvernement trouve? C'est donner 6 milliards de francs congolais.
Ce qui fera 6 à 7 000 francs congolais qu'on pourra ajouter au salaire de chaque enseignant.
Vous voyez ce que ça veut dire? Et les 6 milliards, c'est pour 3 mois. Là, on trouve une solution où on colmate des brèches. Ça, ce n'est pas une réponse à la situation. Et il semble que l'éducation fait partie des chantiers. Arrêtons. Il faut qu'on donne des véritables solutions et pas... Parce qu'il y a rentrée scolaire, on fait semblant de commencer. Qu'est-ce qu'une prime de 5 000 francs représente à un enseignant à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Beni, à Kasumbalesa,
et partout ailleurs,
à Arou, partout ailleurs? 5 000 francs congolais, et c'est une prime, ce n'est pas une augmentation. Après 3 mois, la prime part, parce qu'une prime, c'est une libéralité. Ça, ce n'est pas résoudre le problème de l'enseignement. Et nos enfants, nous les vouons à quoi? Si c'est à cet enseignement au rabais que nous sommes en train de les amener. Oui, peut-être que les enfants de ceux qui nous dirigent étudient en Afrique du Sud, ou sont en Europe, ou sont dans des écoles privées, on peut comprendre. Mais la pauvre population congolaise, le fonctionnaire qui a ses enfants dans les écoles publiques ici, dans les écoles catholiques, la gratuité de l'enseignement primaire dont on a tant parlé et tant vanté, il est où? C'est vrai, je suis à Kinshasa, moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai des membres de famille.
Pour le moment, la ville de Kinshasa et celle de Lubumbashi ne sont pas concernées par la gratuité.
Enfin,
elle serait appliquée avec beaucoup de difficultés dans les autres provinces.
Mon cher Guy, tu penses que je n'ai pas de neveux à l'intérieur du pays? Je n'ai pas de neveux dans les villages? Alors, il faut qu'on envoie un petit quelque chose.
Donc c'est pas effectif.
Ah bon, voilà.
Dieudonné Moulamba, comment la rentrée scolaire se prépare dans la ville de Kananga, au Kasai Occidental?
Il n'y a rien d'extraordinaire pour ce qui se passe dans notre province. Comme les amis l'ont signalé, la vie reste toujours tendue, parfois pénible pour certains parents, parce que, vous savez, comme le rythme de chaque année, le prix des objets classiques doit être revu à la hausse. Peu avant la rentrée, moi qui vous parle, j'ai 3 enfants que je dois envoyer à l'école, mais vous voyez, je suis parmi le coût de la vie face à ça comme situation. Donc, la rentrée scolaire occidentale se prépare de manière la plus difficile qui soit. Les amis ont souligné des choses très capitales derrière lesquelles moi aussi je m'aligne, c'est que l'État congolais doit penser à être responsable devant cette situation de rentrée scolaire, devant les fonctionnaires de l'État qui sont en train de scolariser les enfants. Ça veut dire, vous imaginez qu'un fonctionnaire de l'État qui ne touche que 20 000 francs à la fin du mois ici en province, mais qui a 5, 6 enfants à scolariser, et il y a hausse de prix des nécessaires pour la rentrée scolaire, mais moi je me dis qu'il est devant un morceau dur. C'est comme ça que les taux d'analphabétisme est en train de d'augmenter dans le pays. Donc la rentrée scolaire au Kasaï occidental est très difficilement préparée. En plus de ça, moi je me dis, si pendant les années où il n'y a pas d'élection dans le pays, les choses parfois se compliquent, les années scolaires sont émaillées de beaucoup de problèmes, beaucoup de grèves, mais cette année électorale, moi je me dis que ça va s'annoncer terriblement difficile parce que il y a beaucoup parmi ceux qui animent les institutions du pays, il y a beaucoup qui ont les soucis de briguer des mandats électoraux, et quand ils vont se plonger dans la course de la campagne, écoutez, les choses vont être très difficiles qu'auparavant.
Alain Botoku, ces problèmes liés aux conditions sociales des parents, des enseignants, ils sont toujours évoqués à chaque rentrée scolaire depuis toujours. Mais pourquoi rien ne change à votre avis?
Rien ne change parce qu'il n'y a pas une politique structurée qui est suivie et qui rend compte. C'est ça le vrai problème. Regardez, vous avez une nation où vous voulez construire des routes, construire des aéroports, construire tout ce qu'il faut, les ponts. Mais qui vont gérer ces ponts, ces routes, ces aéroports, si ce sont les hommes? Et quel homme, si ce ne sont pas des hommes qui sont éduqués, qui sont instruits pour pouvoir mener l'ouvrage jusqu'à à le durabiliser? En fait, je crains fort, si on ne change pas la façon de gérer la chose publique et surtout l'enseignement, que notre pays sombre encore plus dans le chaos. Regardez combien d'enfants de RIC nous avons à Kinshasa ou ailleurs, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. C'est dit à quoi? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire, ils naissent et puis les parents ne savent pas leur encadrer, ne leur donne pas l'éducation, et ils sont devenus des problèmes pour la nation, pour l'humanité, en réalité.
Benoît Kambéré, les enseignants souhaitent obtenir l'application du premier palier des maudits, qui est des $69 pour le huissier et $690 pour le secrétaire général.
Ça fait combien de temps que les enseignants, toutes les rentrées scolaires depuis Mboudi, ça fait des années maintenant, chaque rentrée scolaire, on revient sur ça. Si on avait des autorités qui avaient des oreilles, ils comprendraient. Mais on a l'impression qu'ils se sont bouchés les oreilles avec du coton. Chaque année, c'est ça. Et c'était faisable. Je me suis amusé, comme les semaines passées ici, il y a eu plein de congrès qui se sont passés à Kinshasa, n'est-ce pas? J'ai posé la question. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Mais il suffisait de voir comment ça s'est passé. Combien ont coûté tous ces congrès, concerts qu'on a vus à travers Kinshasa. Posons la question, combien ça a coûté? Est-ce que tout cet argent qui a été dépensé à travers des caravanes, à travers des congrès juste cosmétiques pour faire voir je ne sais quoi, à qui, cet argent ne pouvait pas aider à soulager tant soit peu les problèmes des enseignants? Et tout cet argent vient d'où? Vous n'allez pas me dire que c'est de l'argent qui vient du ciel, qui tombe du ciel, c'est de l'argent de ce pays, qui viennent des entreprises de ce pays, qui viennent des caisses de l'État de ce pays et qui peuvent servir à quelque chose. Alain a dit tout à l'heure, si on avait une politique structurée, cet argent serait canalisé dans le domaine de l'éducation pour qu'on trouve des solutions, pas des solutions cosmétiques, des solutions pensées, des solutions durables pour que ça soit l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Un pays comme le Sénégal réserve 40 à 60% du budget à l'éducation.
Avec son arachide.
Avec son arachide. Un pays comme le Mali, pareil, 40 à 50% pour l'éducation des enfants.
Avec son or.
Il n'y a rien là-bas.
Rien qu'un peu d'or.
Et nous, tout ce qu'on a. Le père Ekwa a écrit un livre. Le père Ekwa, qui est une sommité dans le domaine de l'éducation. Notre pays, j'ai comme l'impression que nous sommes maudits.
Non, je crois qu'on n'est pas, maudits.
Les hommes qui sont méchants, en fait.
Dieudonné Moulamba, avec un budget d'environ 6 milliards de dollars, dont 60% proviennent des partenaires extérieurs, et que seulement 5,7% de cette somme est destinée à l'EPSP, pensez-vous qu'on peut arriver à répondre aux desiderata des enseignants?
C'est là même des notes de quel genre d'importance, quel degré d'importance on accorde à ces secteurs en République démocratique du Congo. Le gouvernement doit être interpellé par ce genre de prévisions budgétaires parce que l'enseignement au Congo, je ne sais pas comment on le comprend. Je ne sais pas comment on comprend l'enseignement au Congo. Dans d'autres pays, comme Benoît venait de le dire, on accorde un grand pourcentage du budget
à l'enseignement. Mais ici, c'est comme si tout celui qui est aujourd'hui autorité dans le pays n'est pas passé par le banc de l'école. Et je me rends aussi compte qu'on concentre dans le budget, on accorde beaucoup de frais aux ministres, on a beaucoup de frais aux députés et autres, mais ce secteur, qui est même le secteur moteur de la vie de chacun, on ne sait pas y accorder beaucoup d'importance. Donc moi, je pense que les choses ne peuvent pas marcher à partir du moment où le gouvernement, en concevant le budget, accorde à l'enseignement un petit pourcentage du budget.
5,7%.
Voilà. Pour qu'on puisse relever les choses, moi, je pense qu'il faut qu'on reparte à zéro, sur des nouvelles bases, qu'on sache que dans le budget, on doit accorder un grand pourcentage à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour permettre aux agents ou aux enseignants de pouvoir être responsables, autonomes, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir bien faire ce qu'ils doivent faire. Mais si à partir du sommet, on ne sait pas prévoir la situation, c'est comme si on a jamais même mené certaines enquêtes pour se rassurer que le fait qu'on accorde un pourcentage du budget à l'enseignement, c'est ça qui fait que le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo soit vraiment en baisse. Là, je me réalise que c'est difficile qu'on puisse poser un véritable diagnostic du problème. Normalement, on devait faire un effort pour voir que les enseignants doivent avoir le minimum de leurs conditions de vie pour pouvoir faire évoluer l'enseignement au Congo.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, sport en République démocratique du Congo. Robert Nouzaré a mis fin à sa fonction de sélectionneur national de Léopard Football depuis mardi dernier. Il évoque comme raison de son départ, notamment, les mauvaises conditions de travail. Après 12 mois de prestations, le sélectionneur national de Léopard de la République démocratique du Congo s'en va. Et Robert Nouzaré a résilié à l'amiable son contrat mardi dernier à Kinshasa. À son engagement en août 2010, il avait reçu mission de qualifier les Léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée 2012. Robert Nouzaré donne au micro des Caniches Mukongo les raisons de son départ.
J'ai souhaité demander au président si une résiliation de contrat à l'amiable était envisageable. Donc il a dit OK, sans problème, pour se séparer dans les meilleures conditions.
Vous n'irez pas à Lubumbashi pour voyager avec l'équipe nationale pour le match contre le Sénégal ?
Non, j'ai rempli ma dernière mission en Angola. On m'avait demandé de former une équipe locale avec Otis, parce que je savais que ça allait se terminer comme ça s'est terminé aujourd'hui.
Coach, en quelques mots, qu'est-ce que vous reprochez à la FECOFA ou qu'est-ce que la FECOFA vous reproche ?
Écoutez, je ne sais pas ce que la FECOFA reproche. Moi, la seule chose, c'est que je fais un constat. Après le match de la Gambie, on m'a supprimé mes vacataires et il y a eu un problème de joueurs. Donc à partir de là, contractuellement, c'était plus acceptable, mais surtout au niveau philosophie, je ne pouvais plus travailler dans les meilleures conditions. Donc plutôt que de travailler en faisant la gueule et ne faisant pas mon travail comme il faut, j'ai préféré laisser la place libre pour que l'équipe se prépare dans les meilleures conditions, surtout après avoir apporté ma contribution au match en Angola. Et je pense que tout va bien se passer pour aborder les deux derniers matchs et surtout celui du Sénégal dès samedi prochain.
Dieudonné Moulamba, vous êtes journaliste de la radio-télévision Malanji FM de Kananga au Kasaï occidental. Et comment cette nouvelle du départ de Nouzaré a été accueillie dans cette ville Kananga?
Bon, dans le monde sportif de ma province, les gens pensent qu'il fallait qu'on essaie de voir les motivations de ce départ très spontané de Robert Nouzaré. Il faut se poser la question si Nouzaré n'a pas remarqué que depuis qu'il est à la tête sur le plan technique de l'équipe, il trouve que les choses ne marchent pas et qu'il a compris qu'il faut laisser les choses avant que les choses ne les laissent. Je ne sais pas, mais je pense aussi que ce qu'il évoque aujourd'hui comme raison de son départ, certains sportifs ont trouvé qu'il fallait effectivement, si après avoir trouvé qu'il n'a pas les mains libres et il a choisi de pouvoir partir, ça peut s'expliquer parce que normalement, un sélectionneur doit avoir les mains libres, il doit être celui qui émet un point de vue prépondérant sur l'alignement des joueurs. Alors, s'il n'est pas libre de faire ça, en tant que responsable dans ce domaine, il ne pouvait que faire ça aujourd'hui. Mais si c'est parce qu'il a remarqué certaines incompétences, il risque de les disqualifier un peu plus tard et qu'il a choisi de démissionner un peu tôt, là c'est quelque chose à déplorer.
Alain Botoko, vous êtes reporter photographe indépendant. Il y a des analystes qui pensent que ce départ était prévisible, vu les interférences dans la gestion de Robert Nouzaré.
Mais il n'y a pas que Robert Nouzaré. tous ses prédécesseurs partent de la même manière. Regardez tous ceux qui ont précédé nos arrêts. Ils arrivent à la veille de grandes compétitions, ils démissionnent. Ils n'ont même pas la moitié de leur contrat, ils démissionnent. Mais c'est le même problème que nous avons au Congo. Vous engagez un entraîneur, non pas pour l'imposer vos choix, votre façon de voir les choses. L'entraîneur, c'est le chef dans l'organisation du football. Et puis, il est le seul maître. Il n'y a pas à s'y mixer dans ses décisions, dans ses prises de position. Et ça, c'est le problème que nous avons ici au Congo. Mais aussi, regardez, le joueur ne se prépare pas à un âge très avancé. C'est la pépinière, les joueurs se préparent dans le bas âge et on fait croître ces joueurs et il faut aussi une politique pour ça, pour gérer ces jeunes gens qui commencent dès le bas âge et on croit avec eux et jusqu'à un certain âge, ils seront disciplinés, ils vont agir comme ils se doivent.
Et donc il faut des écoles de foot.
Il faut des écoles de foot, mais aussi, il n'y a pas que les écoles de foot. Il faut aussi respecter les contrats avec ceux qui entraînent les joueurs.
Merci. Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Et si tous ces entraîneurs partent de la même façon, comme vient de l'évoquer Alain Botoko, et pourquoi on continue à engager ces entraîneurs expatriés quand on sait que leur prise en charge pose problème?
C'est à se poser des questions, justement. Il faut une véritable politique de sport. On engage des entraîneurs étrangers. Je me demande d'ailleurs pourquoi on les engage. Avec les salaires faramineux qu'on leur donne, le sport dans notre pays est devenu une histoire d'affairiste et d'affairisme, malheureusement. Ailleurs, on voit que, c'est vrai, on a eu André Maury, on a eu Vidinic, on a eu Claude Leroy, qui est parti dans les mêmes conditions que nous arrêts. Et là, je suis surpris qu'ils reviennent d'ailleurs. J'espère que cette fois-là, on va les laisser les mains libres et que ces primes ne vont pas traîner. Non, il faut que ça s'arrête. C'est une véritable politique de sport qu'il faut. Est-ce qu'on a déjà pensé à nationaliser les entraîneurs ou à bien payer les entraîneurs qu'on a? Notre compatriote Mutubile Santos, c'est lui qui a amené des coupes ici. On le paye combien par rapport à ces expatriés qu'on engage et à qui on ne laisse pas les mains libres? Pourquoi Jules Bokandé, ancien joueur du Sénégal, a été entraîneur de l'équipe du Sénégal? Pourquoi Rabah Madjer, ancien joueur de l'Algérie, a été entraîneur de... Pourquoi on ne peut pas prendre un compatriote, on le met dans des bonnes conditions, au lieu d'engager des copains en dehors du pays pour...
Et la guéguerre entre la FECOFA et Nouzaré était liée aussi à la perception que chacun avait de la composition de l'équipe nationale. Et la FECOFA pensait que l'équipe devait être constituée des locaux, tandis que Nouzaré, pour lui, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de professionnels, et il tenait compte plutôt de la compétence de chacun. Et le même problème ne va pas se poser avec Leroy qui a signé son contrat hier.
Mais c'est les mêmes causes produisant les mêmes effets. Alain l'a dit. On arrivera à la même situation. Quelle est la politique, la véritable politique de sport de notre pays? La véritable, est-ce qu'il y a une pépinière? Est-ce qu'il y a des écoles de foot? Est-ce qu'il y a des juniors?
Pourtant, il y a des talents.
Il y a des talents, c'est vrai, mais ils sont encadrés. Il y a combien de terrains de football équipés par qui? Équipés par la FIFA. Combien l'État donne pour le sport, si ce n'est pour le besoin de campagne électorale, on dit on a fait tel terrain ou tel terrain. Arrêtons. Il n'y a pas de véritable politique de sport dans notre pays et cela va nous tuer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, assisté de Kelly Nkouté, sous la supervision de Martin Sebou Djangoué. Devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.